Séquence Midi, l'info locale à la sauce Pulsar, midi 30-13h sur le 95.9.
Bonjour, merci de commencer cette semaine en notre compagnie. Séquence Midi, c'est en direct du lundi au jeudi de 12h30 à 13h avec vos découvertes musicales, votre agenda et bien sûr vos invités. Aujourd'hui, on va parler de la réhabilitation du centre socioculturel du Clos Gautier et de la crèche Frimousse. Ce sera en seconde partie d'émission. Mais tout de suite, on parle d'un sujet qui a fait polémique la semaine dernière, c'est la loi Duplomb qui était censée simplifier le quotidien des agriculteurs mais qui aussi revenait sur pas mal d'avancées environnementales. Et on accueille tout de suite Sacha Houllier, député de la Vienne. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous avez subi des dégradations sur votre permanence parlementaire par rapport à une loi de réautorisation des néonicotinoïdes. Est-ce que vous pourriez déjà nous expliquer en quoi ont consisté ces dégradations ?
Alors, c'était des tags, c'est également des affiches qui ont été collées, des affiches portant des slogans injurieux ou dégradants. Et puis après, c'est des choses plus classiques, c'est-à-dire du dépôt d'ordures sur la voie publique et sur le bâtiment privé qui est celui de l'ensemble commercial de la Place de France dans le quartier des Trois Cités.
Est-ce que vous pourriez nous rappeler un petit peu le contexte qui a mené à cette situation et les enjeux de la loi Duplomb qui devait être débattue à l'Assemblée ?
Alors, on dit loi Duplomb parce que c'est la loi qui a été proposée par le sénateur éponyme, du même nom. C'est une loi qui... vise, selon son titre, à lever les contraintes sur le métier d'agriculteur et qui prévoit trois types de dispositions en bloc. Une première partie de dispositions qui sont, à mon avis, les plus graves et les plus contestables, qui consistent à la fois à réautoriser des néonicotinoïdes et parmi les néonicotinoïdes, donc, qui sont des agents neurotoxiques, l'acétamipride, pour traiter des productions... très généralement de noisettes, de pommes, de cerises, etc., au prétexte qu'on l'utilise ailleurs dans l'Union européenne, mais que c'est interdit depuis 2018 en France. Voilà. Deuxième partie de mesures qui concerne la simplification pour faire des bâtiments d'élevage, ce qui peut se discuter, mais qui, cela revient à faire des bâtiments d'élevage XXL, tels qu'on peut le connaître sur la ferme des Taurillons dans la Vienne, eh bien, pour le coup, là encore, c'est contestable. Puis une dernière chose qui consiste effectivement à autoriser massivement les réserves de substitution, ce qu'on appelle aussi les bassines pour les opposants. Et là, également, il y a une discussion à avoir entre ceux qui ne veulent absolument pas de réserve alors que le climat se réchauffe et que finalement la ressource en eau doit être protégée, et puis ceux qui veulent faire un peu n'importe quoi, c'est-à-dire des grandes réserves sans contrainte et sans contrôle et qui posent aussi problème. Alors, le texte est un texte qui mêle les positions toutes les plus radicales favorables à une agriculture qui est sans contrôle, et donc évidemment ça pose de grosses difficultés puisque ça n'est pas ce que je souhaite et ça n'est pas ce que nous sommes nombreux à souhaiter.
Alors pourquoi de telles tensions et comment vous expliquez que votre permanence soit la cible de ces intimidations ?
Alors, il y a beaucoup de tensions parce que c'est attendu par les agriculteurs, ce sont des promesses qui ont été faites par parfois des gouvernements. En janvier 2024, c'est Gabriel Attal qui, alors Premier ministre, a promis la réautorisation de ce fameux néonicotinoïde, l'acétamipride. Alors on rappellera que l'acétamipride, c'est considéré comme ayant des effets sur les abeilles, donc ça détruirait les abeilles, mais c'est aussi considéré comme ayant une incidence forte sur la santé humaine. Ce seraient des facteurs de cancer, facteurs de générateurs de diabète, de maladies rénales, puis ce serait neurotoxique, donc ça va avoir des conséquences également sur le développement des fœtus, et donc pour la santé humaine aussi, c'est extrêmement grave que l'on puisse le réautoriser. Sauf que ça a été promis par certains pouvoirs publics, à mon avis de façon trop rapide et certainement irresponsable, et donc les agriculteurs tiennent cette promesse pour acquise et réclament aujourd'hui à corps et à cri. Du reste, sur les règles d'urbanisme, on connaît chacun dans nos villes les contraintes que ça peut faire peser sur nos projets, et c'est un sujet qui peut être inflammable. Quant à l'eau, c'est un sujet qui, depuis maintenant de nombreuses années, est effectivement très discuté. Alors, il faut savoir que sur l'eau, il y a quand même des projets qui sont très, très différents. Et je vais vous donner trois exemples très locaux pour qu'on puisse le mesurer. Vous avez des réserves qui ont été faites en Vendée, sans la moindre contrainte. Ça, c'est le contre-exemple type. Vous avez des réserves qui ont été faites dans les Deux-Sèvres, qui posent problème parce que les contraintes, elles sont collectives. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui les respecte individuellement. Et puis par ailleurs que les ouvrages prévoient des retenues de presque 1 million de mètres cubes d'eau, ce qui est beaucoup trop. Puis vous avez des projets dans la Vienne qui sont plus modestes, 300 000 mètres cubes, avec des contraintes individuelles, c'est-à-dire qu'on vérifie agriculteur par agriculteur, s'ils respectent les normes environnementales, s'ils rejettent dans la nappe des produits ou pas, et donc ça a des conséquences sur le fait qu'ils puissent stocker de l'eau ou pas. Et c'est sur cette dernière version qu'il faudrait pouvoir avancer, c'est-à-dire des réserves plus petites et sur lesquelles on a plus de contrôle à l'égard des agriculteurs qui l'utilisent.
Alors, la coordination rurale vous semble vous reprocher de ne pas être à l'écoute des agriculteurs. Comment vous répondez à ces accusations et comment vous envisagez le dialogue ?
Alors, il est assez vrai, on peut le dire, que je ne suis pas à l'écoute de la coordination rurale. Mais je peux l'expliquer. D'abord, c'est parce que la coordination rurale a proféré des menaces. Ce n'est pas la première fois qu'ils dégradent ma permanence, que je leur ai demandé des excuses publiques. Et que par ailleurs, j'ai reproché à la coordination rurale ses liens avec l'extrême droite qui sont assez directs, puisque dans le Lot-et-Garonne, par exemple, des candidats de la coordination rurale, du syndicat de la coordination rurale, étaient sous la bannière du Rassemblement national. Et que de nombreuses enquêtes journalistiques ont établi les liens entre le Rassemblement national et ces syndicats agricoles. Donc il y a une plainte en diffamation qui a été déposée contre moi par le syndicat coordination rurale, une plainte qui d'ailleurs n'a jamais eu de suite, ce qui me renforce dans ma conviction que j'avais raison de déclarer ou de faire valoir ce lien. Et donc effectivement, on a des différends. Ça ne m'empêche pas de discuter avec les jeunes agriculteurs, la FNSEA, d'avoir parfois des points d'accord, parfois des points de désaccord, et de recevoir la Confédération paysanne également. Donc on a un vrai différend avec le premier syndicat cité, et sans excuses publiques de leur part sur les dégradations qu'ils ont faites, je n'entends pas les recevoir davantage à l'avenir.
Et quelles solutions vous proposez aux producteurs, notamment de noisettes, qui disent avoir absolument besoin de ce néonicotinoïde ou d'un substitut peut-être pour pouvoir produire ?
Bah, d'abord, il faut quand même rappeler que l'acétamipride n'est pas interdite hier en France. Elle a été interdite il y a 7 ans maintenant. Donc ça veut dire que depuis 7 ans, on produit sans. Alors que l'on puisse avoir des indemnisations sur les pertes de rendement ou les pertes de récolte, c'est la nature même de la réforme de l'assurance récolte qu'on a construite dès 2022. Que l'on puisse avoir des recherches auprès de l'INRA, que ce soit financé par des pouvoirs publics, qu'on mette un peu plus de moyens sur ces recherches, c'est une évidence. Mais à partir du moment où, de toute façon, l'acétamipride sera interdite en Europe, partout, en 2033, qu'est-ce que doit faire la France ? Elle doit réautoriser et attendre l'interdiction générale, ou elle doit faire la transition et la recherche pour être prêt lorsque tous les pays de l'Union européenne ne le seront pas ? En revanche, si je peux partager un constat avec les agriculteurs qui sont ceux qui produisent des noisettes, je crois qu'il y a un producteur dans la Vienne, c'est vrai qu'on ne doit plus pouvoir importer de noisettes de la zone hors Union européenne qui sont produites dans des conditions que nous n'accepterions pas. Et donc, aujourd'hui, une marque comme Ferrero qui produit le Nutella avec des noisettes qui sont turques ou qui sont de zone hors Union européenne traitées dans des conditions qui ne sont pas celles autorisées aux producteurs européens et aux producteurs français à fortiori, eh bien, je pense qu'on doit pouvoir l'interdire dans des règles de commerce qui, à mon avis, seraient saines.
Alors, le débat n'a pas pu avoir lieu à l'Assemblée nationale. Ça aussi, vous le regrettez ?
Oui, en fait, si vous voulez, on a. Alors d'abord, il a été dit qu'il y avait une obstruction. C'est vrai, les groupes de gauche ont déposé de très nombreux amendements. Est-ce que c'est une obstruction ou est-ce que c'est un nombre d'amendements qui est hors du commun ? Non. Sur le budget, vous avez 3000 amendements. Sur le texte sur la fin de vie, vous aviez 2600 amendements et 1000 de plus sur le texte sur les soins palliatifs. Alors quand on a 3500 amendements sur un texte agricole, vous voyez qu'en fait, en réalité, on est. Sur du grand classique. Dès 2018, sur un texte sur le logement ou sur un autre texte sur la première loi agricole que nous avions votée, 3000 amendements, c'était déjà le nombre d'amendements déposés, y compris en majorité absolue. Donc, qu'on ait raconté ou qu'on ait voulu dire qu'il y avait une obstruction parce qu'il y avait 3000 amendements, oui. Est-ce que c'était insurmontable et ça nous empêchait de débattre ? Non. Et par ailleurs, on aurait pu mesurer effectivement les fissures, les doutes, les craintes, et puis on aurait mis surtout les députés face à leurs responsabilités. Que les députés votent oui ou non, il faudra l'assumer aussi, oui ou non à la réautorisation des néonicotinoïdes et donc de l'acétamipride, il faudra l'assumer ou non dans quelques années s'il y avait des scandales sanitaires qui voyaient un nombre important de cancers qui soit imputable à ce type de produit. Et moi, je pense que, en fait, ça aurait dû faire réfléchir les députés, on aurait dû avoir ce débat et on aurait dû trancher en conscience et en connaissance.
Justement, comment on fait pour allier à la fois la défense du milieu agricole, la défense de l'environnement et la santé humaine? C'est parfois assez contradictoire en termes de loi pour les députés.
Non, c'est pas contradictoire parce que souvent les agriculteurs disent qu'ils sont les premiers écologistes, comme le disent les chasseurs d'ailleurs. Ça a du vrai, puisque naturellement c'est eux qui prennent soin des paysages, c'est eux qui finalement rejettent du produit qu'on retrouve ou qu'on ne retrouve pas dans les nappes, et donc qui sont les premiers acteurs de la protection de la biodiversité, de la transition climatique, des pratiques nouvelles qui sont faites. Moi, je vois tous les jours des agriculteurs qui font la polyculture sur un même champ, donc qui plantent à une saison du soja, à une autre saison du blé, à une autre saison du maïs, et qui sur un même champ font tourner les cultures. J'ai plusieurs exemples en tête. Des agriculteurs qui ne font plus de labour profonde pour qu'ils ne détruisent pas la biodiversité dans la terre. Ça, on le voit tous les jours, que ce soit des agriculteurs biologiques ou des agriculteurs qui soient raisonnés, en tout cas qui ont des pratiques qui sont agro-environnementales. Et puis par ailleurs, les agriculteurs protègent aussi, et d'abord, leur santé. C'est-à-dire qu'en en traitant moins, en faisant attention aux produits, aux produits qu'ils utilisent, ils sont finalement les premiers acteurs de la protection de leur santé. On a connu beaucoup de générations d'agriculteurs qui ont eu des problèmes après avoir fait usage de produits phytosanitaires et qui sont aujourd'hui très conscients de tout ça. Le scandale du chlordécone est assez éclairant, même s'il est très éloigné de la Vienne, puisqu'il s'agit des Antilles. Mais ça montre qu'au fond, on a tout intérêt à réconcilier transition écologique, écologie de façon générale et agriculture, parce que les sujets sont intrinsèquement liés.
Merci beaucoup, Sacha Houlier. Juste une dernière question pour nos auditeurs et auditrices. 2026, a priori, vous allez vous présenter aux élections municipales?
Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est en train de regrouper toutes les forces qui sont de ma tendance politique, c'est-à-dire social-démocrate, pour présenter une alternative. Il y a une liste qui a été élue en 2020, qui est celle de Léonard Monconduit, avec un programme politique, et sans jugement, qui est un programme politique plutôt décroissant, donc moins d'habitants, moins d'étudiants, moins d'économie, voilà. Bon, c'est une vision de la ville qui n'est pas la mienne, et moi je voudrais présenter avec d'autres une vision qui est alternative, où on attire de la richesse, on en produit, on la partage, on relance l'économie dans les quartiers, on donne une signature à la ville en général, et puis on parle d'attractivité comme quelque chose qui n'est pas un gros mot, en attirant de la nouvelle population. Ce seront deux projets politiques alternatifs, et les gens auront le choix démocratiquement de choisir l'un ou l'autre. Ça, je pense que c'est sain. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'en politique, on puisse proposer des alternatives qui sont tranchées par un vote. Ça, je pense que aujourd'hui, il y a trop de gens qui l'oublient et qui oublient le fondement de ce pourquoi on a finalement organisé le débat démocratique.
Merci beaucoup, Sacha Houlier, député de la Vienne, d'avoir pris le temps de passer dans Séquence Midi. Merci, bonne journée.
Bonne journée.
Voix singulière du folk blues contemporain, Early James est chanteur, compositeur et guitariste. Voici un extrait de son dernier album, Medial Row, le titre « Go Down Swinging ».
Duck, duck, goose inside a chicken coop. My the fox am I the own? Am I the verb? Am I the noun? Did I fall in love with a villain? Someone who'd kill to make a living. Well, I'll never die the hero, so let me go down swinging. Mm-hmm. there's candy in their noses. Red Rover, come on over. Gonna need a headstone, need a chauffeur. Did I fall in love with a villain? Someone who'd kill to make a living. Well, I'll never die the hero. So let me go down. I hear the fat lady singing, so let me go down swing.
Et pour nous, ce moyen de transport.
Pulsar, c'est bon.
Moi, je dormirai sur le sofa.
Point d'exclamation.
Et on accueille maintenant Alexandra Vénard, qui est adjointe à l'éducation populaire aux maisons de quartier et au numérique responsable pour la ville de Poitiers. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour nous parler de la réhabilitation du centre socio-culturel du Clos Gautier et de la crèche Frimousse. Alors d'abord, ce centre socio-culturel, qu'est-ce qu'il représente pour le quartier des Trois Cités ?
Comme tous les centres socioculturels de la ville, hein, ça représente un poumon pour le quartier, ça représente à la fois un lieu où peuvent s'exercer la citoyenneté, les formes de citoyenneté, l'accueil des activités associatives, l'accueil des enfants, mais aussi l'accueil des personnes plus âgées. C'est une maison ouverte sur le quartier qui assure un accueil inconditionnel du plus jeune âge jusqu'au plus vieux et qui permet à la fois d'avoir des activités, que ce soit de loisirs, de citoyenneté, d'accès aux droits également, une partie importante de leur travail. Et c'est avant tout un lieu vraiment de convivialité également ouvert sur ce quartier.
Alors le bâtiment date de 1967, je crois. Quels sont les principaux problèmes qui posent aujourd'hui ? Pourquoi la réhabilitation était nécessaire ?
Alors il y avait deux problèmes qui étaient clairement pointés par les équipes, hein, à la fois salariés mais aussi par les usagers. Le premier, c'est le confort thermique, hein, puisque ces bâtiments qui ont été construits il y a plus de 40 ans, ce n'étaient pas des considérations qui étaient du tout dans l'air du temps à cette époque-là, donc c'est une première chose. La deuxième chose, un problème aussi d'organisation de l'espace qui assurait quand même un accès assez difficile pour faire correspondre les différentes activités, les échanges de lieux pour les enfants. Un autre point, et pas des moindres, c'est qu'il n'y avait pas d'accès en fait, pour les personnes à mobilité réduite. Et d'autre part, un espace aussi qui manque clairement de verdure et qui, de ce fait, a une tendance aussi à la surchauffe globale sur les périodes d'été.
Alors comment justement cet aspect environnemental et énergie va-t-il être réglé ?
Alors ça, on a plusieurs. Alors déjà, il y a une obligation réglementaire, hein, pour tout ce qui est rénovation, réhabilitation de lieux pour ce type de bâtiment. Donc on se conforme à une loi. On va au-delà en fait de cette loi aussi, en travaillant notamment aussi. Ça passe beaucoup par le choix en fait du cabinet d'architectes, hein, qui va nous accompagner et de l'attention qu'il va porter à ça. En l'occurrence, on travaille avec un cabinet d'architectes local, l'atelier Dutré, qui a quand même une sensibilité assez exacerbée sur ces questions aussi de confort thermique et également en fait de biosourçage en fait des matériaux qui vont être utilisés. C'est-à-dire qu'après, on peut travailler sur cette dimension confort d'été, confort d'hiver, évidemment par la structure même du bâtiment. Donc là, en l'occurrence, on va être sur un peu de surélévation qui va permettre aussi un petit peu plus d'échange de flux, donc plus de passage d'air naturel qui va permettre de naturellement réguler l'air chaud l'été, mais aussi qui va permettre de réguler pour les températures d'hiver. Ça va être sur l'utilisation aussi donc, des différents matériaux. Donc là, on va avoir beaucoup de bois sur les ossatures. Ça va être également sur tout ce qui va être isolation, etc. Et il y a quelque chose qui me semble intéressant aussi à valoriser, c'est que c'est un bâtiment Alors certes, qui est dans son jus, hein, dans ses années 60, 70, mais qui malgré tout, si vous voyez le lieu, il y a un beau mur en parement-pierre, par exemple, à l'entrée. Il y a quelques éléments comme ça, assez significatifs aussi de l'architecture de ces années-là. C'est ça, ça va être des mosaïques bleues aussi qu'on va trouver à différents endroits. On a pris le parti pris, en fait, de se dire, on va garder aussi ces éléments un peu identitaires de ce bâtiment, cette histoire qui servira aussi de support un peu pédagogique pour les enfants et pour les adultes aussi, d'ailleurs, à la réouverture du lieu.
Et alors, justement, le travail avec ce cabinet d'architecture a été intéressant aussi auprès des utilisateurs du centre socioculturel et de la crèche. Comment s'est déroulée la concertation ?
Alors, tout à fait. Dans ce genre de travaux, donc comme je vous le disais, des obligations réglementaires, oui, mais ce qui importe surtout, c'est quand même de répondre au mieux aussi aux besoins. Un des besoins aussi qui avait été pointé par l'équipe salariée du centre socioculturel, c'est un manque flagrant en fait d'espace d'accueil. C'est-à-dire qu'on arrivait directement sur un espace un peu bâtard, on ne savait pas trop, un guichet, très peu accueillant globalement. Donc ça, c'était vraiment aussi un projet très fort et une envie très forte de l'équipe d'avoir cet espace, un peu une forme d'atrium quelque part, qui pouvait vraiment crier même aux gens qui rentrent dans le lieu, bienvenue, vous êtes chez vous, asseyez-vous, prenez place, prenez un café. C'est quelque chose aussi qui est très important dans les centres socioculturels, c'est d'avoir cette première approche en fait très ouverte, très 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 engageante pour les personnes. Donc de ce fait-là, donc ça c'est une première chose qui est arrivée et ça on l'a su en fait aussi parce que donc l'atelier Dutray a mené un travail assez remarquable de consultation donc des équipes des trois cités mais également des usagers avec sous forme de différentes réunions public, entre guillemets, pour bien comprendre aussi ce que représentait ce centre socioculturel pour les personnes, quelles en étaient leurs attentes, quelles étaient les limites actuelles et qu'est-ce qu'on pouvait en espérer, en fait, pour une rénovation.
Et alors, en termes de réalisation, qu'est-ce que ça va apporter ? Il y a un agrandissement, ça, du centre socioculturel, mais aussi de la crèche. Ça, c'était aussi une demande ?
Oui, tout à fait. C'est un espace qui est quand même assez contraint, hein. On ne va pas se mentir, parce qu'il accueille aussi une multitude d'activités et en simultané également. Donc, il y a une augmentation de la surface pour le CSC qui est de 200 mètres carrés. Il y a tout un refaçonnage aussi des espaces pour éviter les espaces perdus, hein, pour que chaque espace aussi puisse être utilisé et avoir une utilité non aussi dans le projet pédagogique et le projet social du centre, d'une part, et d'autre part, donc la crèche Frimousse, où on va augmenter la capacité d'accueil de 24 à 30 places, donc pour accueillir 6 nouveaux enfants à sa réouverture.
Et alors, pendant les travaux, comment ça se passe pour toutes les activités, pour la crèche, les enfants ?
Alors, les enfants, en fait, sont répartis sur différentes autres crèches de la ville. Donc ça, c'est des choses qui sont gérées par le CCAS, en lien évidemment avec les parents, en prenant aussi en considération les contraintes de ceux-là, leur lieu d'habitation, de travail, etc., etc., pour faire en sorte quand même d'amoindrir un maximum l'inconfort, on va dire, de ce temps de travaux. Quant aux activités du CSC et aux activités des 80 associations qui y sont hébergées, elles ont toutes été réparties en fait sur des lieux dans le quartier. Donc ça a été un sacré jeu de Lego aussi bien pour les assos, mais particulièrement pour l'équipe des Trois Cités et l'équipe aussi des services de la ville pour jouer un petit peu ce Lego géant pour savoir où est-ce qu'on peut mettre un tel. Un travail quand même d'une grande qualité, hein, puisqu'à ce jour, aucune association ne s'est retrouvée sur le carreau et chacune a pu trouver une place où être logée pour mener ses activités.
Sachant que le calendrier, là, on en est où du chantier et quelles sont les perspectives ?
Donc là, on a fait une visite de chantier il y a une semaine ou deux, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, la déconstruction a démarré, les opérations de désamiantage également. Donc on va pouvoir travailler sur la réhabilitation en tant que telle et la réouverture est prévue à l'été 2026 pour une réintégration complète à l'automne 2026.
Et en termes de budget, quel est le...
Alors, on est sur une enveloppe globale de un petit peu plus de 8,5 millions. Vous n'êtes pas sans savoir le coût des matériaux actuellement, qui ont clairement flambé sur tous les différents projets qu'on peut avoir. On voit des prix qui flambent, mais bon, malgré tout, on arrive à contenir aussi grâce au travail qu'on fait avec les cabinets d'architectes, avec les services, etc. On essaye de contenir aussi un maximum ces enveloppes pour pouvoir assurer tout ce qu'on s'est engagé à faire aussi.
Et vous parliez aussi d'une partie jardin qui sera ouverte sur le ouais. quartier. Qu'est-ce que vous espérez aussi de cette réhabilitation et peut-être de cet espace pour le quartier ?
Alors justement, il y a toute une partie avant, il y avait une cour, on va dire, qui était très minérale, très chaude. En gros, inutilisable en fait pour des activités extérieures, pour qui que ce soit, enfant comme adulte. Donc là, l'idée est bien de faire en fait une place centrale qui est aussi végétalisée, qui va permettre d'installer quelques jeux pour enfants aussi, qui va permettre aussi de pouvoir y développer des activités pour les grands, pour les petits, etc., etc. Ce qui constitue en plus une forme de continuité, puisque ce que je n'ai pas précisé, c'est que l'accueil de loisirs, donc l'accueil des enfants, le mercredi après-midi, les vacances, se fait actuellement au Bois de Saint-Pierre. Donc ça veut dire aussi que de cette contrainte initiale, le centre des Trois Cités est aussi en train, comment dire, de développer de nouveaux projets, une nouvelle manière aussi un petit peu d'appréhender son accueil de loisirs qui va pouvoir être repensé, réintégré dans ce nouvel espace et qui est complètement en cohérence aussi avec la réflexion globale qu'on mène avec les 10 maisons de quartier sur les questions de transition écologique et comment est-ce qu'on fait aussi transition écologique dans ces assos, dans ces lieux, sans être dans la dimension punitive, mais bien en faisant preuve, en fait, que la transition éco, c'est nécessaire, mais ça peut être aussi très impactant et positif à bien des égards sur nos vies à toutes et tous.
Merci beaucoup Alexandra Bénard, donc adjointe à l'éducation populaire et aux maisons de quartier pour la ville de Poitiers, d'être venue parler de cette réhabilitation du centre socioculturel du Clos Gaultier et de la crèche Frimousse dans le quartier des Trois Cités. Et donc, ouverture prévue l'été prochain.
C'est ça.
Merci bien.
Merci, bonne journée.
Tout de suite, c'est l'heure de votre agenda. On démarre avec une exposition photo Bernard Duchâteau. Ça commence aujourd'hui, c'est jusqu'au 31 juillet à l'Ouvre-Boîte à Valence-en-Poitou. Une exposition de cet artiste amateur et passionné de photographie. Donc l'entrée est libre et gratuite. Lors des temps d'ouverture du tiers-lieu, les arts plastiques de Saint-Benoît, dortoir des moines et salle capitulaire donc à Saint-Benoît. Les arts plastiques organisent l'exposition des œuvres des adhérents et des quatre professeurs. C'est du 2 au 15 juin dans la salle capitulaire avec des petits formats. Et dans le dortoir des moines, ce sera plutôt les grands formats. Le fil rouge, il y aura un fil rouge entre ces deux lieux. Journée de sensibilisation aux troubles des conduites alimentaires, c'est à Poitiers aujourd'hui dans le cadre de la semaine de sensibilisation aux troubles des conduites alimentaires, la TCA, organisée par la Fédération française d'anorexie boulimie, le centre de recours et de coordination des troubles des conduites alimentaires de Poitiers. Elle a le plaisir d'annoncer une journée spéciale dédiée à l'information et à la sensibilisation du grand public. Donc cette année, le thème c'est quand les TCA s'immiscent dans la famille, quel est l'impact d'un TCA sur la dynamique d'une famille, comment accompagner un membre de la famille vers des soins. Les parents ont-ils fait quelque chose de mal, entre guillemets, ayant provoqué le trouble de leur enfant? Autant de questions que se posent les personnes souffrant de ces troubles et leur entourage, et auxquelles les réponses sont souvent éparses, partielles, voire fausses. Donc c'est toute une journée pour s'informer, pour engager la communauté autour des défis liés à ces troubles qui touchent près d'un million de personnes en France. Donc il y a deux temps forts, une après-midi d'information et de communication sur la place Alphonse Le Petit de Poitiers, c'est de 13h à 17h. Vous pourrez participer à une série d'animations interactives, d'ateliers, de stands d'information. Et puis, il y a un ciné-débat au Tap Castille à 18h avec la diffusion de deux courts-métrages, Sacha et Comme un plume, en présence de la réalisatrice Émilie Bélina-Richard et des professionnels du centre hospitalier Labourie et du CHU de Poitiers. Sur Pulsar, retrouvez à 18h Anne Zeta Vrips. À 19h, c'est la bande dessinée avec X-Bulle. Ce soir, avec Punks, à 20h, le thème, c'est toujours trop con. Et de 21h à 23h, des live dans Scrognonieux. C'était Grégory à la réalisation technique. Merci à lui. On se quitte avec un extrait de NPK et de Smiley, le titre Mystic Night.
In the neon city where the lights are bright, there's a siren's call in the heart of the night. A melody a danger in the smoky haze. We'll